Radio Kapi. Oh, Kapi.
Soixante civils retrouvés après leur disparition dans l'attaque des présumés ADF hier sur la nationale numéro 4 en Ituri. Entre-temps, l'armée invite la population à collaborer pour faciliter la tâche aux forces de défense. La MONUSCO, elle, condamne cette attaque et rassure de son soutien au FARDC malgré cet incident. Et le CEPADO invite l'armée et la MONUSCO à plus de ténacité et de vigilance pour vaincre ces rebelles. C'en est fini pour l'examen d'État édition 2021 en RDC et dans quelques pays limitrophes qui abritent des écoles consulaires. À Butembo cependant, durant ces 4 jours d'épreuve, certains élèves se disent inquiets d'avoir fait face aux questions tirées des matières non vues en classe. Ils espèrent toutefois en la réussite. Et puis, l'invité Marguerite Kunduma, chef du bureau du Fonds des Nations Unies pour la Population, pour le Grand Kasaï, elle est à Mbujimayi depuis lundi. C'est pour notamment lancer le projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif PERS en sigle. Avant de déballer ces titres, d'abord cette nouvelle sportive. Éliminatoire mondial Qatar 2021 zone Afrique, mauvaise sortie des léopards de la RDC qui ont été tenus en échec par les Taifa Stars de la Tanzanie cet après-midi au stade Mazembe de la commune de Kamalondo de Lubumbashi, un but partout. Les Congolais ont ouvert le score par Dieu merci Mbokani à la 23e minute. Les Taifa Stars ont égalisé par Simon Souva à la 36e minute. En manque d'inspiration, les léopards n'ont pas pu déjouer la muraille que les Tanzaniens ont monté devant leur défense en seconde période. Pour la deuxième journée, les léopards iront jouer lundi prochain contre les écureuils du Bénin à Cotonou. Après avoir loupé la phase finale de la CAN Cameroun 2021, la RDC rate le début de sa compétition à domicile. Madame, Messieurs, bonsoir. En Ituri, plusieurs civils disparus hier lors de l'attaque des EDF à Ofai ont été retrouvés. Ces personnes ont réussi à s'échapper après des échanges de tirs entre ces rebelles et les FARDC appuyés par des casques bleus de la MONUSCO. Le porte-parole de l'armée en Ituri parle de 60 civils libérés. Le lieutenant Jules Ngongo indique que les opérations de traque se poursuivent dans la zone pour permettre le passage en sécurité des personnes et des biens sur cet axe. Le point de la situation avec Ezekiel Mousalia.
C'est un calme total qui refait surface ce matin dans la localité de Bandibessé en chefferie de Walese Vonkutu, 24 heures après l'attaque des rebelles des ADF contre un convoi des véhicules de transport en commun sur la RN4 dans le territoire d'Irumu. D'après le président de la société civile de cette chefferie, une grande partie de la population de ce village a fui vers les endroits jugés sécurisés. Des carcasses des véhicules incendiés jonchent encore la chaussée. Lors des opérations militaires lancées mercredi par l'armée, son porte-parole avance un bilan de 4 morts parmi les passagers qui étaient en fuite. Leurs corps ont été retrouvés dans la brousse et un militaire est jusqu'ici porté disparu, affirme le lieutenant Jules Ngongo. Parmi les victimes, il y a l'une qui a été calcinée dans les véhicules, précise-t-il. Toutefois, le porte-parole des FARDC confirme la libération des 60 otages des mains de ces hors-la-loi. Du coup, le trafic est paralysé sur l'axe Komanda Luna qui relie l'Ituri à la province voisine du Nord Kivu. Pour l'instant, une vingtaine de véhicules restent bloqués à Komanda, indique la société civile locale. Bounia, Ezekiel Mouzali, Radio Okapi.
Des réactions au lendemain de cette attaque attribuée aux EDF à Ofai. L'armée avance un bilan provisoire de 4 morts parmi les civils, un militaire porté disparu et 16 véhicules brûlés. Pour le lieutenant Jules Ngongo, cette embuscade serait due au non-respect par les camionneurs des dispositifs sécuritaires mis en place. Il appelle la population à faciliter la tâche aux forces de défense en vue de mieux assurer la protection des passagers et des engins roulants qui fréquentent ces axes jugés très dangereux sur le plan sécuritaire. Le lieutenant Jules Ngongo, joint par Ezekiel Mousalia.
Et nous disons ceci, le convoi, ce n'est qu'un moyen palliatif dans l'attente de chercher à restaurer automatiquement et totalement l'autorité de l'État et permettre la libre circulation de personnes et de leurs biens sur tout le réseau routier en Ituri. Et cela, c'est au péril de notre vie. Nous les appelons à respecter les mesures sécuritaires et les consignes de convoi. Attendez le go du convoi. L'heure qui était prévue, attendez, ne soyez pas pressés. car nous sommes là pour cette population. Au péril de notre vie, nous allons protéger cette population. Alors cette dernière doit à tout prix respecter les consignes du convoi et les consignes sécuritaires en ce moment où les opérations sont en cours. Et nous demandons à la population au calme, à l'apaisement et surtout de continuer à croire aux actions, sur également faire confiance à cette armée et collaborer avec cette armée.
Pour sa part, la MONUSCO condamne fermement cette attaque d'hier. Pour le porte-parole de la mission, cette embuscade a un seul objectif, discréditer l'armée et la MONUSCO pour que la population cesse d'avoir confiance en ses deux partenaires. Mathias Gilman rassure cependant que malgré cet incident, la MONUSCO va continuer à apporter son soutien au FARDC tout en renforçant les dispositifs sécuritaires pour que ces genres d'incidents ne se répètent plus. Le porte-parole de la mission onusienne, joint par Jean-Claude Loki.
Il y avait une centaine de véhicules qui étaient donc escortés, des voitures, des camions et des motos. Et il y a eu une attaque hier matin au Faï. Les assaillants ont été repoussés par les casques bleus et l'armée congolaise. Il nous semble que cette attaque vise à discréditer les forces de sécurité, à rompre la confiance avec la population qui a besoin de ces convois qui sont absolument essentiels à la survie économique des Congolais. Et donc malgré cette attaque, la MONUSCO va continuer avec ses partenaires de l'armée congolaise à sécuriser au maximum les déplacements sur cette route nationale afin de permettre aux Congolais de travailler, d'avoir des échanges économiques et d'avoir accès aux ressources dont ils ont besoin. Donc c'est évidemment une attaque qu'on condamne avec force, mais nous allons continuer à sécuriser les convois civils le plus possible et évidemment voir comment on peut encore mieux sécuriser pour éviter que ce type d'attaque ne se reproduise.
De son côté, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, condamne également cette attaque meurtrière perpétrée hier par des présumés EDF contre un convoi de véhicules, attaque survenue entre Komanda et Luna. Dans un communiqué publié le même jour, l'organisation appelle la population, l'armée et la MONUSCO à plus de ténacité et de vigilance pour vaincre ces rebelles ensemble. Maître Omar Kavota, coordonnateur et directeur exécutif du CEPADO, le dit au micro d'André Kitenge.
Lorsque un groupe s'attaque à un convoi jusqu'à incendier au moins 16 véhicules et causer la disparition de plus ou moins 80 civils, nous disons que cela n'a pas d'autre nom que l'expression éloquente du terrorisme. Nous condamnons avec fermeté ce qui a prévalu à Ofai et nous savons qu'il s'agit des actes de sabotage contre cette initiative courageuse, l'état de siège, et contre les animateurs de cet état de siège. Mais nous voudrions que la population ne puisse pas tomber dans le piège de cet ennemi qui veut à tout prix opposer à chaque occasion cette population aux animateurs de l'état de siège, à l'état de siège lui-même, au FARDC et à la MONUSCO. Nous pensons qu'il est plus qu'important que la population et les animateurs de l'état de siège, les FARDC et la MONUSCO, soient soudés comme jamais auparavant pour traquer ensemble cet ennemi parce que ces jours sont en train de se compter et ils voudraient à tout prix chercher à opposer les uns contre les autres.
Par ailleurs, la jeunesse de Beni doit se désolidariser d'avec les manipulateurs pour que la sécurité soit une réalité dans cette région et que tout projet porte du fruit pour un développement durable. Appel du porte-parole du gouverneur du Nord Kivu lors du lancement hier à Beni du projet dénommé Dialogue démocratique pour la paix à Beni. Le général de brigade Sylvain Ekenge est au micro de Guylaine Kassassia.
À la jeunesse ici représentée, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu, n'a qu'un seul message, celui de vous demander de renforcer la culture de la paix. Certes, vous êtes les premières victimes du terrorisme pour lesquelles vous payez le lourd tribut. Très souvent, vous êtes instrumentalisé par les tireurs des ficelles qui vous poussent à adhérer aux groupes armés et aux forces négatives, à poser des actes répréhensibles pour des raisons et les causes qui ne servent ni la population, ni votre communauté, et moins encore votre territoire. Le moment est donc venu de vous constituer en une force et de demeurer, non pas le plus grand commun diviseur, mais plutôt le plus petit commun multiple de la paix, de la sécurité et de la prévention des conflits sans lesquels le développement du territoire de Beni est inconcevable et inimaginable.
À Goma, des milliers de personnes sinistrées de l'éruption volcanique du Nyiragongo attendent toujours leur installation provisoire par le gouvernement. Cela, plus de 3 mois après ce drame, 1006 abris provisoires construits par le fonds du gouvernement pour les accueillir sont presque terminés. Officiellement, c'est 2 à 3 000 ménages qui ont été sinistrés, mais sur place, c'est plus de 5 000 ménages qui sont cantonnés dans des écoles et bâtiments publics en espérant être relogés. La grande préoccupation reste la délocalisation définitive de ses habitants vers d'autres milieux tels que promis par le gouvernement. Sifamaguru, reportage.
Situé à Kanyaruchinya sur un terrain accordé provisoirement par la paroisse catholique et une partie de la chefferie de Munigi, ces abris sont construits en bâches soutenues par des chevrons et couverts de tôle. Nous avons visité ce site qui est déjà approvisionné en eau potable et certaines dispositions pour accueillir les bénéficiaires. Les superviseurs des travaux, le général Kouzan Nakubela Jules explique.
En fait, nous avons construit au total 1006 abris. Sur place ici, il y a 900 et quelques abris parce que nous avons aussi construit à Kananza 32 abris. Le site est subdivisé en 5 quartiers. Chaque quartier est doté de l'eau, de toilettes, ainsi que des lampadaires pour éclairer. Chaque abri contient 2 chambres et salons.
Néanmoins, les conditions de sécurité de ces abris inquiètent encore certains acteurs, notamment un député élu de Nyiragongo, Adèle Baziza. Années pensent qu'en dehors des intempéries, ces abris devraient être améliorés.
Comme le nom le dit, abri provisoire, moi j'accepterais que ce soit des maisonnettes en semi-durable où les gens pouvaient vivre paisiblement. Mais les bâches comme ça, même quelqu'un peut passer avec des rasoirs, casser ces bâches.
Pour le général Kuzangana, cet espace a été accordé pour un temps, raison pour laquelle il ne pouvait pas y construire des maisons en semi-durable. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, l'examen d'État édition 2021 appartient désormais au passé. Débuté le lundi et paumé sur 4 jours, ces épreuves se sont clôturées aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national et dans quelques pays limitrophes qui abritent des écoles consulaires de la RDC. À Butembo, durant ces 4 jours d'épreuves, certains élèves affirment avoir fait face aux questions tirées des matières qu'ils n'ont pas vues en classe, le cas des mathématiques. La perturbation du calendrier scolaire à cause du coronavirus en serait la cause. En dépit de cela, la plupart des finalistes comptent sur la réussite. C'est un reportage de Grévis Salomon.
Parmi les élèves que nous avons rencontrés, il y a de ceux-là qui étaient tout contents et ont même jugé facile toutes les épreuves affrontées. C'est le cas des Hope Ndivito rencontrés au centre Butembo 1, basé à l'Institut Kambali, qui ne jure que pour la réussite.
C'était quand même facile, même si on croirait que c'était difficile, mais franchement c'était facile. Je crois que la question qui a été vraiment petite et facile, on nous a demandé qui a présidé l'octroiement de l'indépendance du Congo.
Qu'est-ce que tu as répondu?
J'ai dit que c'était Bodo et premier. J'espère à la réussite avec distinction.
Arsène Kabuyaya dit avoir fait face à des questions tirées des matières qu'il n'a pas vues en classe. Malgré cela, il s'est dit confiant.
Ça s'est passé bien. Malgré tout, il y a eu certaines difficultés. Les points mathématiques sont des trucs inhabituels qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Le message à d'autres finalistes est d'être stable, de ne pas paniquer, attendre les résultats. Si c'est positif, en fait, si c'est négatif, on s'y adapte.
Signalons que des policiers ont été déployés devant les centres d'examen en ces derniers jours pour parer à toute éventualité des troubles généralement causés par des prétendus étudiants. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que la police a interpellé quelques personnes pour troubles à l'ordre public. Butembo, Grévis Salomon, Radio Okapi.
Direction la province du Nord-Ubangi, le monument du maréchal Mobutu érigé à Gbadolité est l'un des rares en RDC depuis la disparition en 1997 de l'ancien chef de l'État. Ce buste en bronze a été placé devant la mairie de sa ville d'origine et depuis l'inauguration de ce monument le dimanche dernier par la fondation Ouidal appartenant au ministre Guy Loando, la population afflue dans ce site composé également d'une fontaine à jet d'eau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au Congo central, signalons le lancement hier à la cité de Mbanzangungu des travaux de bétonnage de la voirie urbaine. Pour le gouverneur Atuma Tumbuana, Mbanzangungu n'est qu'une étape. Il promet que toute la voirie de la province du Congo central sera modernisée conformément aux instructions du président de la République.
Actualité, Afrique monte.
L'Afrique du Sud a déclaré mercredi qu'elle n'est pas en mesure d'accueillir sur son territoire des réfugiés afghans qui ont fui leur pays après la prise de contrôle de Kaboul le 15 août dernier par les talibans. Le gouvernement sud-africain n'est malheureusement pas en mesure de répondre à une telle demande, a déclaré dans un communiqué le ministère sud-africain des Affaires étrangères. Le pays a été sollicité pour accueillir temporairement avant qu'il ne rejoigne une destination finale des Afghans réfugiés au Pakistan voisin, a précisé le ministère. L'Afrique du Sud accueille déjà un nombre substantiel de réfugiés et est chargée de répondre à leurs besoins. La plupart d'entre eux bénéficient déjà d'une aide sociale et des soins médicaux gratuits, a-t-il souligné.
L'invité.
Il s'agit de la chef du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population pour le Grand Kasaï. Marguerite Kunduma séjourne à Mbujimayi depuis lundi. Elle est allée lancer le projet dénommé PERS, entendez, projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif, et aussi mener les plaidoyers auprès des autorités et autres acteurs de l'éducation pour leur implication dans ce projet, ainsi que dans la lutte contre les mariages précoces. Docteur Marguerite Kunduma s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Marguerite Kunduma. Quel est le but de votre mission à Mbujimayi?
Je suis à Mbujimayi pour une mission de lancement d'un projet. Nous avons un projet très important ici et dans la Lomami, financé par la Banque mondiale. C'est le projet PERS, le projet de l'équité et le renforcement des systèmes de l'éducation. C'est un projet qui accompagne les programmes de gratuité de l'enseignement primaire et avec objectif principal la mise en place des mécanismes de prévention de l'exploitation et abus sexuels en milieu scolaire. Comme vous savez, le Kasaï oriental a des indicateurs qui nécessitent quand même une attention particulière. Les indicateurs liés à notre programme, c'est-à-dire la santé de la reproduction et violence basée sur le genre. J'ai été discuté avec les autorités sur les indicateurs comme le mariage des enfants. Le Kasaï oriental est placé à tête au niveau du pays. C'est la première province avec les taux de mariage d'enfants les plus élevés. Disons, 57% des filles s'y sont mariées avant 18 ans, alors que la moyenne nationale, c'est à 18%. Mais ici, on est à 57. Et d'autres indicateurs aussi, comme les besoins de planification familiale et les autres indicateurs sur les violences faites à la femme, très, très sensibles et très mauvais ici. Du coup, on a été discuté avec les autorités pour présenter ce que nous faisons déjà comme agence des Nations Unies. Nous travaillons en partenariat avec UNICEF dans les questions des mariages des enfants, mais nous voulons aussi l'implication de l'autorité provinciale.
Vous parlez de projet PERS, quand est-ce qu'il va être lancé?
En fait, le projet PERS a déjà démarré. C'est un projet qui couvre 10 provinces. Ici aussi, on a fait déjà des formations des formateurs parce qu'on veut vraiment doter chaque province avec ses pôles de formateurs dans tout ce qui concerne ces questions de violence basée sur le genre et aussi des exploitations et abus sexuels. Du coup, on voit maintenant ensemble comment ces formateurs peuvent commencer des formations sur terrain et quelles structures cibler. Et c'est un travail conjoint entre trois secteurs, ça veut dire l'éducation, qui est le principal secteur qui sera appuyé par la santé et les genres familiales.
Quel sera le mécanisme pour qu'on puisse être informé ou bien pour remonter les informations en rapport avec les abus sexuels et les violences basées sur les genres dans le milieu éducatif?
Le projet a des volets. Il y a un volet qui est géré par le ministère de l'Éducation lui-même. Ça veut dire qu'ils ont mis en place une base de données de gestion des plaintes. Chaque fois qu'il y a un problème de violence ou d'abus d'un élève par son enseignant ou par ceux qui appartiennent au corps éducatif. Donc ça remonte au niveau de la base des données et ils ont tout un mécanisme de gestion des plaintes. UNFPA, nous venons appuyer ce projet par rapport à notre expertise dans la prévention. Au fait, nous voulons faire la prévention, à sensibiliser les enseignants, tous les corps enseignants, les élèves et aussi les communautés et aussi en mettant en place ce que nous appelons mécanisme de référencement. Ça veut dire chaque fois qu'il y a un cas qui survient, par exemple, les cas survient à telle école X dans un village X, donc ils peuvent tout simplement avoir les circuits de référencement à leur portée pour savoir à cas des problèmes, on réfère où et on réfère auprès de quelle structure qui peut prendre la charge. Et une fois que nous aurons identifié ces structures-là, nous allons renforcer la capacité pour qu'elles soient prêtes à recevoir les enfants en cas de problème.
Après l'identification des cas, l'UNFPA n'appuie pas l'étape juridique par rapport à ce cas.
Lorsqu'un élève est abusé par son enseignant, c'est une survivante de violences basées sur les genres. Et comme vous savez, les survivantes des violences basées sur les genres doivent être prises en charge holistiquement. Ça veut dire prise en charge médicale, psychosociale, réinsertion socio-économique et l'accompagnement juridique. UNFPA, nous coordonnons la réponse et la prévention au VBG. UNFPA, comme une agence coordonnatrice, veille à ce que la victime, la survivante, puisse bénéficier des 4 volets. UNFPA comme agence, nous-mêmes, nous appuyons l'offre des 2 volets. Donc la prise en charge médicale et psychosociale. Et aussi, nous travaillons en partenariat avec les autres agences. Et tout ça, c'est dans un cadre de mécanismes de référencement. Ces mécanismes de référencement identifient tous les points d'offre de services des 4 volets. Ça veut dire qu'une victime qui a ce genre de problème va bénéficier de tout ça. C'est à ça vraiment que c'est le mécanisme de référencement.
Docteur Marguerite, je vous remercie.
Merci.
Notre invité, le chef du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population, s'entretenait avec Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongo-Chinge. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net.